Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 22 mai. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et au sommaire de ce journal de ce jeudi 22 mai, la police de Nouvelle-Galles du Sud a indiqué que le corps d'un homme de 63 ans avait été retrouvé hier mercredi près de Tarry, sur la côte nord-ouest, dans une propriété de North Motor. Il s'agit du premier décès signalé dans les inondations records qui ont touché la région ces derniers jours. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis que l'ensemble de Gaza serait sous contrôle israélien d'ici la fin de l'offensive. Le Premier ministre israélien se dit prêt à mettre fin à la guerre sous certaines conditions. Et puis le Parti national se prépare à répartir les portefeuilles clés entre leurs députés et sénateurs, nombre d'entre eux se préparant à assumer deux voire trois rôles dans des portefeuilles comme le Trésor, les Affaires étrangères, l'Intérieur et l'Immigration. La police de Nouvelle-Galles du Sud a indiqué le corps d'un homme de 63 ans avait été retrouvé hier mercredi près de Tarry, sur la côte nord-ouest, dans une propriété de North Motor. Il s'agit du premier décès signalé dans les inondations records qui ont touché la région ces derniers jours. Et puis des dizaines de milliers de personnes restent isolées en raison de ces inondations qui continuent de frapper les régions de Hunter et de la Mid Coast, North Coast, en Nouvelle-Galles du Sud. 139 alertes ont été émises pour la région. Andrew Gissing, directeur général de Natural Hazards Research Australia, a décrit ces inondations comme un événement qui ne se produit qu'une fois tous les 500 ans. En attendant, des précipitations de 200 à 300 mm sont possibles au cours des prochaines 24 heures, ce qui pourrait provoquer des crues soudaines. Mike Wassing, commissaire des services d'urgence de l'État, a déclaré que les habitants devraient tenir compte des alertes.
We currently have more than 48,000 people that are currently isolated due to the floodwaters. And we've already had 1,000 incidents and 355 rescues in the last 24 hours. Again, mainly in the Taree, Wingham and Glenthorne areas, and we still have some of those areas currently with active crews working to rescue personnel and local residents.
Lors d'une rencontre tendue avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche, Donald Trump a répété des allégations infondées selon ses détracteurs, selon lesquelles les agriculteurs blancs seraient la cible d'un génocide. Le président américain a diffusé une vidéo et publié des articles qui, selon lui, soutiennent ses affirmations. Ramaphosa a répliqué, affirmant n'avoir jamais vu la vidéo auparavant et que si la criminalité est un problème en Afrique du Sud, ce sont principalement les Noirs qui sont visés par les meurtres. Il a demandé au président Trump à écouter ce qu'il décrit comme les nombreuses voix sud-africaines qui lui disent que les agriculteurs blancs ne sont pas persécutés.
It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us at a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis que l'ensemble de Gaza serait sous contrôle israélien d'ici la fin de l'offensive. Au moins 82 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures suite aux attaques israéliennes. Le Premier ministre israélien se dit prêt à mettre fin à la guerre sous certaines conditions.
I am ready to end the war. but with clear conditions that will ensure Israel's security. These include all the hostages return home, Hamas hands over its weapons, their leadership is expelled from Gaza, and we implement President Trump's plan that the residents of Gaza who want to leave can leave.
Les Nations Unies affirment qu'elles tentent d'acheminer l'aide arrivée à Gaza jusqu'aux Palestiniens malgré des retards dus aux craintes de pillage et aux restrictions militaires israéliennes. Israël a accepté dimanche d'autoriser l'entrée d'une quantité minimale de nourriture à Gaza après un blocus de 11 semaines. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que l'aide n'avait pas été distribuée malgré l'arrivée de camions du côté palestinien du point de passage de Kerem Shalom.
None of the supplies have been able to leave the Kerem Shalom loading area. This is because by yesterday evening, Israeli authorities had only allowed our teams to go through one area where that was highly congested, that we felt was insecure, and where we felt looting was highly likely to take place given the prolonged deprivation of in Gaza given since the blockade by the Israeli authorities for over 11 weeks.
Le Premier ministre du Vanuatu, Jotham Napat, a déclaré avoir eu une réunion productive avec la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, concernant la conclusion d'un nouvel accord bilatéral. Il a précisé que l'accord était encore en cours de finalisation, mais qu'il couvrirait plusieurs domaines.
The Vanuatu-Australian Nakamal Partnership Agreement, a framework for development cooperation. Through this framework, Vanuatu and Australia will jointly address critical priorities, including the economic and infrastructure, climate adaptation and resilience building. And we are hoping that we will sign this Nagamal agreement this coming September.
Penny Wong affirme que l'Australie souhaite approfondir davantage les liens entre les deux pays.
We all know this is an uncertain world. The Prime Minister and I spoke about this. We've seen a lot of change. Well, what I would say to the leaders of Vanuatu, to the Prime Minister and to his cabinet, to the chiefs and to the people, is that we are a steadfast partner. You can count on us.
Le pape Léon XIV a confirmé au Premier ministre, à la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, sa volonté d'accueillir le prochain cycle de négociations pour tenter de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Suite aux récents entretiens entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le cabinet de Madame Meloni a déclaré avoir salué les propos du président Trump. Donald Trump a déclaré que le pape Léon XIV avait exprimé son intérêt pour l'organisation des négociations entre l'Ukraine et la Russie.
I think it would be great to have it at the Vatican. Maybe it would have some extra significance. And I saw that it was discussed yesterday, so I thought, and people told me that they'd be honored to do it. I would imagine they would be. So no, I think it would be maybe helpful. There's tremendous bitterness, anger, and I think maybe that could help some of that anger. So.
Le pape a tenu sa première audience générale, place Saint-Pierre. Ce rassemblement hebdomadaire est l'occasion pour les pèlerins d'interagir avec le pontife et d'écouter ses enseignements. Les participants ont exprimé l'espoir que le nouveau chef de l'Église catholique soit une voix forte pour la paix en cette période de conflit exacerbé.
I hope he's going to really do something. I hear already he's talking to Trump and that there
he
are...
He was speaking to the Ukrainian leader just a week, really, which was really nice. Yeah. And he seems to be very proactive because he started already, which is good. He's a world leader. He's not just a Catholic leader.
En Australie, à nouveau, de nouvelles données sur la criminalité montrent que la population carcérale de Nouvelle-Galles du Sud atteint son plus haut niveau depuis 5 ans, les Premières Nations étant surreprésentées. De nouvelles données du Bureau des statistiques et de la recherche sur la criminalité de l'État révèlent que les adultes aborigènes représentent désormais 32% de la population carcérale de l'État, alors qu'ils représentent moins de 3,5% de la population totale. Il s'agit d'une augmentation de 14%. 5% en seulement 4 mois, contre une augmentation de 4% pour les détenus non aborigènes. Lauren Stefanou, juriste au service juridique aborigène, a déclaré sur NITV que l'incarcération disproportionnée des Australiens aborigènes est le résultat d'une discrimination structurelle.
What we know is that the mass incarceration of Aboriginal people is driven by the same things it has been since the Royal Commission made its findings over 30 years ago. Over-policing and structural discrimination at every stage in the criminal process. Instead of doubling down on things that don't work and don't make communities any safer, we haven't seen any evidence in crime being reduced by these approaches. We call on the New South Wales government to invest in solutions that actually work to prevent crime in the first place.
Le Parti national se prépare à répartir les portefeuilles clés entre leurs députés et sénateurs, nombre d'entre eux se préparant à assumer deux voire trois rôles dans les portefeuilles comme le Trésor, les Affaires étrangères, l'Intérieur et l'Immigration. Le chef des Nationals, David Littleproud, a déclaré sur SBS que ce serait une erreur de sous-estimer les capacités de son parti.
And that we shouldn't be pigeonholed as just the country cousins. We're a little broader than that, and we're a lot smarter than what people give us credit for. And I think you'll see that there'll be a lot of ideas and policies and argument of debate in this country that we'll add value to, that Australians, I think, will look up and with admiration at the end.
Et puis l'ancien Premier ministre John Howard a exhorté le Parti libéral et le Parti national à collaborer pour reformer la coalition. Les nationaux ont invoqué des désaccords politiques pour expliquer la scission, tandis que le Parti libéral affirme que la pression exercée par les anciens collègues pour briser la solidarité ministérielle a été le point de friction. John Howard était chef du Parti libéral lors de la dernière scission de la coalition. Il a déclaré sur Sky News que les partis avaient besoin des uns des autres.
I am very sorry that this has happened, and I urge both parties to work overtime to put the coalition back together again, because all the history of Australia suggests that the glory days of the Liberal Party and the National Party, the old country party, are when they are working together in government.
Et puis le Premier ministre Anthony Albanese affirme qu'il serait déraisonnable de récompenser le Parti national en lui octroyant davantage de personnel suite à la décision de se séparer du Parti libéral. Les libéraux étant le parti d'opposition officiel, les nationaux ne détiennent plus de ministères fantômes, ce qui signifie que certains sacrifieront des avantages, notamment du personnel supplémentaire et une prime salariale de 25%. Le nombre exact de personnel qui sera affecté aux nationaux est laissé à la discrétion du Premier ministre Anthony Albanese.
Well, obviously, we'll give consideration to all of those matters, but clearly it is not reasonable that there be more staff or a reward, if you like, for the fact that you have this division has occurred. So we'll give consideration to it.
Le Premier du Queensland, David Crisafulli, affirme que les Nations Unies ne le contrôlent pas, ripostant aux critiques des experts de l'ONU concernant la dernière série de lois de l'État sur la criminalité des adultes. Le gouvernement LNP de l'État prévoit de renforcer la législation sur la délinquance juvénile en ajoutant 20 infractions supplémentaires passibles de lourdes peines. Les experts de l'ONU affirment que ces nouvelles lois qui autorisent des enfants dès l'âge de 10 ans à purger une peine de prison à perpétuité menacent de créer ce qu'ils appellent une sous-classe d'Australiens. David Crisafulli affirme ne pas être responsable devant l'ONU.
Here's my message to the United Nations. You don't control me and I don't answer to you. I answer to Queenslanders. I answer to a whole heap of those people back there who've had their lives turned apart. And I say to the United Nations, we make laws to deal with one of the biggest issues this state has ever faced. And it's a generation of repeat, hardcore young offenders who were created by weaker laws.
Le trésorier Jim Chalmers a salué la baisse des taux d'intérêt, la qualifiant de bonne nouvelle pour l'économie, les taux d'intérêt ayant été réduits pour la deuxième fois en 3 mois. Il affirme qu'il s'agit d'un soulagement bienvenu pour des millions d'Australiens titulaires d'un prêt immobilier, malgré l'incertitude mondiale et la pression économique qui règne dans le pays. Il affirme que le gouvernement a une orientation claire.
To provide stable, responsible, considered, methodical economic leadership, because that responsible economic management has seen inflation come down substantially, real wages grow, unemployment very low, growth returning, rebounding in our economy. We've got the debt down.
Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 23 degrés, Adélaïde 19, Melbourne 17, Hobart 16, Canberra 17, Sydney 21, Brisbane 26, Darwin 21 et à Alice Springs, maximal de 21 degrés. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
Journal des sports, et on débute avec du football, et du football au niveau européen. La victoire des Tottenham Hotspurs contre le Manchester United 1-0. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien, l'entraîneur des Spurs, c'est Ange Postecoglou. Ange Postecoglou, c'est l'ancien entraîneur des Socceroos, il est australien, et c'est une force de caractère dans le football. On écoute ses propos tout de suite après cette victoire donc de Tottenham Hotspurs. Il rappelle un point d'histoire australienne.
It's a quote my favorite Australian Prime Minister Paul Keating said after an unlikely victory, he said this is one for the true believers, and this is certainly one for the true believers, and that means, you know, an unbelievable group of players who never wavered, never lost faith in me and what we were doing.
Voilà donc Ange Postecoglou sur cette victoire des Spurs face à Manchester United 1-0 en Ligue Europa, donc au firmament des compétitions européennes, en tout cas pour cette Ligue Europa. On continue sur le football et on continue sur le championnat anglais, la Première Ligue, avec bien Manchester City qui, malgré une victoire 3-2 contre Bournemouth, n'a toujours pas qualifié pour la Champions League. Et ce serait une première depuis très longtemps si ça ne l'arrivait pas. Pep Guardiola, l'entraîneur donc de Manchester City, connaît son objectif.
Nous avons bien joué en finale, mais pas assez pour gagner. Maintenant, nous avons 2 matchs et 4 points à aller chercher pour être en Ligue des Champions. Tout le monde doit en avoir conscience. Cela fait 13, 14 ou 15 ans, je ne me rappelle plus, que Manchester City est en Ligue des Champions. C'est là où nous voulons être. Si nous n'y arrivons pas, c'est que nous ne le méritons pas. Alors nous jouerons la Ligue Europa, mais je ne pense pas à ça. Je suis concentré sur les 2 victoires ou sur les 4 points pour se qualifier et finir 3e de Première Ligue. C'est notre objectif.
In third position in the Premier League, and that is my target.
Pep Guardiola, l'entraîneur donc de Manchester City. On continue sur le football, on va parler de football en France. L'OM Marseille est donc 2e du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Ça qualifie l'OM pour la Champions League également pour l'année prochaine. Et à l'ordre du jour maintenant du président de l'OM, Pablo Longoria, c'est renforcer les rangs. On l'écoute.
Un peu comme base de planification pour l'avenir, c'est de chercher de garder les éléments les plus importants au sein du club. C'est important de donner une continuité à une base que ça nous a donné des bons moments de football. L'objectif numéro 2, chercher de faire une amélioration de ton effectif pour faire un effectif beaucoup plus complet. Ce n'est pas la même chose d'avoir joué cette saison 36 matchs à une saison dans laquelle potentiellement tu as déjà 42 matchs, plus un match de coupe minimum 43, Notre responsabilité en tant que dirigeant, c'est de donner au coach les profils nécessaires pour exprimer au maximum son jeu.
Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille. Et on continue sur le football et on finit avec du football. Il y a deux nouveaux bleus qui ont été sélectionnés pour le match de la Ligue des Nations contre l'Espagne. Ce sera le 5 juin. Deux nouveaux bleus donc, Antoine Grenier.
Ryan Cherki et Pierre Kaloulou. Pour le Lyonnais, d'abord, consécration d'une saison à 8 buts et 11 passes décisives. Convocation attendue pour le Gaune qui, à 21 ans, aura patienté chez les Espoirs avant de convaincre un Didier Deschamps souvent frileux face à ce profil de joueur. Parfois un peu trop soliste. Pour Pierre Kaloulou, autre bisou en bleu, sa polyvalence en défense avec la Juve a persuadé Deschamps de le convoquer. Le franco-congolais qui profite des nombreuses blessures dans la défense tricolore, des absences de Jules Koundé, William Saliba et de Dayo Upamecano pour venir faire son petit bout d'essai à Clairefontaine. Et c'était l'une des épines dans le pied de Didier Deschamps. Les joueurs touchés ou hors de forme, en plus des trois cités, Eduardo Camavinga n'a ainsi pas été appelé. Contrairement à ses partenaires du Real, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, des madrilènes qui regarderont la finale de la Ligue des Champions à la télé. Et c'était l'autre contrainte pour Didier Deschamps. Que faire des joueurs concernés par ce PSG-Inter au sommet de l'Europe? Le sélectionneur tricolore n'a pas hésité. Il a convoqué les 7, 5 du côté du Paris Saint-Germain et 2 à l'Inter. Reste à savoir si tous ces joueurs importants pour les Bleus pourront tenir leur place face à l'Espagne le 5 juin à Stuttgart, même pas une semaine après leur finale de Ligue des Champions.
Voilà donc pour le football pour aujourd'hui. On parle de cyclisme, c'était la 11e étape du Giro. Giro, je vous rappelle, qui est à l'antenne d'SBS tous les soirs. 11e étape, donc gagnée par l'équatorien Carapaz. Un Australien a été en tête pendant presque toute l'étape. C'est Luc Plapp, qu'on connaît sous le nom de Plappy en Australie. Luc Plapp, tout de suite après cette étape.
Yeah, it's a shame they chased from behind, but that's racing and I don't blame them for the way Vacek and Mads are going this week. It's no surprise they won another stage. Just unfortunate for not being able to, I guess, hold on. I was feeling really good. I was playing the game all day and just trying to like pretend I was hurting. I think that's a luxury when you've got a stage already. There's more people more desperate than you and you can sort of hang back, play the game and let them do all the work and I guess try to take them to the finish line. So I was, yeah, really looking forward to that, but that's all right. And then at the end, that final climb, Chris was just struggling a bit, so did everything I could to try to limit the losses. Yeah, gave it what I had, but I think we lost a few seconds there. But oh man, that was a massive day, like massive day.
Voilà, donc Luc Plapp, après la 11e étape qu'il a participé à animer, donc Luc Plapp, le maillot rose reste sur les épaules du Mexicain Del Toro. On continue sur le cyclisme. Il y a quelques jours, eh bien, on avait vu la première victoire de Wout van Aert dans un grand tour depuis un très 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 long moment. Et ça fait du bien à Wout van Aert, il n'y a aucun doute. Et ça fait du bien à la Belgique tout entière. Et on écoute le journaliste belge Renat Schotteux. Il nous explique pourquoi.
I think it was a big sigh of relief for him personally. Personally, my personal experience of Wout winning on the Piazza del Campo was like, it was unbelievable because I was on the Piazza del Campo as one of the rare TV commentators. They've put the TV stand in some narrow street, not on the Piazza. And so you had the race announcers and then you had me in the press box with probably a couple of Colombians, and I tried to imitate them. Not really, but I was really emotional. And I think Wout was the same, and everybody was emotional. Belgium was emotional. It was like a big national holiday.
Voilà donc pour le cyclisme. Et un dernier mot de sport avec du tennis, la victoire de Novak Djokovic au quart de finale du tournoi de Genève, donc un des tournois préliminaires par rapport à Roland-Garros qui commence la semaine prochaine. Djokovic est opposé à Fuchskovic.
It's great to get to break the ice in a way. It's a very demanding surface. We all know how tricky it is to play on clay. Very glad, as I said, to be able to play the best tennis when it was most needed. I think all the way through, basically till the last moment, I was quite focused and pleased with the level of tennis, so hopefully that can continue tomorrow.
Voilà donc pour cette victoire de Novak Djokovic. C'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
13h28 sur les ondes Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et une petite pause. C'est jeudi, c'est l'heure du journal de l'économie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On va parler banque et taux d'intérêt avec Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marianne.
La Banque fédérale australienne vient de réduire les taux d'intérêt de 0,25 points, Nicolas, à 3,85%. C'est le niveau le plus bas des taux d'intérêt depuis mai 2023. Et on vient d'apprendre que les quatre grandes banques australiennes viennent de réagir à cette décision.
Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour les gens qui, depuis longtemps, ici en Australie, ont payé des taux d'intérêt assez hauts. Mais ça a commencé, c'est commencé à baisser là récemment. Et puis aussi avec les tarifs de Donald Trump, ça a mis pas mal de pression sur l'économie australienne. Et en même temps, le taux d'inflation était en train de baisser. Donc la Banque centrale a examiné tout ça. La banque avait déjà coupé les taux d'intérêt avant, mais là, ils ont continué, donc exactement par 0,25%. C'est donc coupé de 4,1 à 3,85%. Donc ça fait à peu près 90 dollars la semaine pour des gens avec une hypothèque d'à peu près 600 000 dollars. Mais ce qui est bien, c'est que déjà tout de suite, les quatre banques principales ont coupé leur taux d'intérêt et c'est vrai que le gouvernement met tout de suite de la pression sur eux. Il y a le trésorier Jim Chalmers qui, la dernière fois, il avait même appelé les banques pour les encourager de couper les taux d'intérêt parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire du tout. Mais là, on a vu que le NAB, National Australia Bank, était la première à annoncer qu'ils allaient réduire leur taux aussi. Donc, ça a été suivi assez rapidement par l'ANZ, Commonwealth Bank et Westpac. Donc, tout ça, ça va commencer le 30 mai, donc dans pas trop longtemps. Mais c'est pas juste pour les familles ou les individuels, c'est aussi, ça va aussi aider les business qui ont passé des mois et une période assez difficile là récemment. C'est pas que les grandes quatre banques, il y a aussi d'autres banques comme Macquarie qui a annoncé qu'ils aussi ils vont couper le taux d'intérêt. Et c'est peut-être pas la fin non plus, parce que là, les économistes, ils pensent que la banque va continuer à agir, à peut-être couper le taux d'intérêt en août, en novembre et même en février l'année prochaine. Et si ça se passe, en fait, le taux d'intérêt pourrait tomber à 3,1%. Et on n'a pas vu ça depuis très, très longtemps. Et ça pourrait vraiment faire une grande différence dans le sens que les gens vont beaucoup économiser d'argent. Avec la crise du coût de la vie, ça pourrait vraiment beaucoup aider. Donc, il y a beaucoup de gens qui espèrent que ça va continuer comme ça.
Oui, c'est ça. C'est un message d'espoir sur le long terme, peut-être.
On espère. Le problème, c'est qu'on a eu tellement d'incertitudes, en particulier avec la politique économique de Donald Trump et la guerre de commerce qu'il y avait entre lui et la Chine. Bon, là, ça c'est en train de se calmer. Donc, quand ça se calme au niveau international et au niveau domestique, on voit que le taux d'inflation baisse au moins le taux d'inflation est dans entre 2 et 3 %, ce qui est la cible de la Banque centrale. Et ben là, les économistes de la Banque centrale sont ils ont un peu plus d'espoir. Ils se disent c'est bon, on peut lever un peu de la pression. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous tous.
Parce qu'en parlant des bonnes nouvelles, évidemment, la première qui nous vient en tête, c'est de se dire qu'on va payer moins de taux d'intérêt. Vous parliez tout à l'heure d'économiser $90 sur un emprunt de 600 000. Mais il y a une autre bonne nouvelle, c'est que désormais, les clients vont pouvoir rembourser leur prêt immobilier plus tôt également.
Bah, c'est ce qu'on espère. Logiquement, c'est ce qui va se passer. Si on a moins d'argent à payer chaque mois, si on décide de continuer à payer au même niveau qu'avant, c'est sûr qu'on va payer plus vite. Mais peut-être que les gens vont décider de garder cet argent aussi parce qu'ils en ont besoin pour payer des factures ou les courses. Le prix des courses est beaucoup monté là dans les 6 mois. Donc peut-être que ça veut dire que les gens vont pouvoir acheter un peu plus de bonne nourriture où avant c'était un peu plus serré. Ou peut-être qu'il y a des factures, il y a d'autres dettes qui vont pouvoir maintenant payer. Donc ça, j'imagine que ça dépend d'une personne à l'autre.
Bon, dans tous les cas, on savoure cette bonne nouvelle. C'est soit un soulagement en payant moins de mensualités, soit un soulagement sur le long terme en payant moins longtemps. Mais en tout cas, c'est une annonce qui tombe à point nommé.
Tout à fait.
On passe à notre deuxième sujet, Nicolas. On va parler environnement. Ça fait 2 semaines qu'il y a eu les élections fédérales et on va dire les choses telles qu'elles sont, la débâcle des Verts. Et bien désormais, c'est le gouvernement travailliste qui s'attelle à ces nouvelles lois pour protéger l'environnement. A commencer, Nicolas, par consulter les groupes environnementaux et les entreprises.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est très intéressant parce que ça dure assez longtemps, cette histoire. Dans le Parlement précédent, le ministre de l'Environnement, c'était Tanya Plibersek, et elle avait essayé de faire la même chose. Mais ça n'avait pas marché, principalement parce qu'il y avait beaucoup d'opposition par les grandes compagnies minières et aussi par le leader de l'Australie occidentale, Roger Cook, qui lui aussi est travailliste, donc du même parti que Anthony Albanese, le premier ministre, et Tanya Plibersek. Mais lui, c'est le premier de l'Australie occidentale, un grand état minier. Donc, le gouvernement avait dû abandonner ce projet de réforme avec Tanya Plibersek. Mais maintenant, il y a un nouveau ministre de l'Environnement, Murray Watt, et lui, donc, il a recommencé ce processus de consultation. Il a pris un vol, il est en Australie occidentale, où il a rencontré justement des entreprises, les groupes, les Verts, les groupes environnementaux, les groupes, les représentatifs des du peuple indigène, les aborigènes, pour discuter, pour voir quelles sont justement les choses qui les inquiètent et pourquoi, selon lui, tout le monde est d'accord au moins que les lois qu'on a pour le moment ne marche pas, donc on a besoin de réformes. Alors voilà, Mary Watt qui prend une approche en fait pas si dissimilaire que celle de Tanya Plibersek, mais il dit qu'il va écouter, il va prendre son temps, parce que là, le gouvernement peut pas vraiment avoir une faillite une deuxième fois. Ça serait politiquement trop difficile, et c'est vrai que ces lois n'ont pas changé depuis très longtemps, et bien sûr les économies ont beaucoup changé, et aussi les questions du changement climatique sont beaucoup plus importantes maintenant, donc c'est vrai que les lois ont besoin de réformes, ont besoin de changer. Voilà, c'est vraiment le début, mais par exemple il y a les entreprises qui disent qu'une chose qui les inquiète précisément, c'est que la dernière fois, ça aurait créé un système avec une énorme bureaucratie sans transparence à Canberra, selon eux. Et donc, ils étaient inquiets que cette bureaucratie pourrait bloquer des grands projets sans vraiment d'assez de transparence. Donc, ils veulent en fait que le nouveau système ne marche pas comme ça. Ils disent qu'on a déjà des organisations ou des systèmes ici en Australie pour donner le feu vert ou le feu rouge à des grands projets minières ou d'autres projets d'infrastructure, et donc ils disent il n'en faut pas un autre. Mais les groupes environnementaux, bien sûr, ils disent écoutez, le changement climatique
c'est
beaucoup beaucoup plus important. Voilà, c'est une réalité, on peut pas ignorer ça. Les choses ont beaucoup changé, donc par exemple avec Woodside qui essaye qui attend le feu vert pour un énorme projet de gaz, le Browse Basin, projet au nord-ouest de l'Australie occidentale et disent on a besoin de ça pour nous ici en Australie, mais pour aussi pour aider d'autres pays dans leur transition à des énergies plus acceptables. Bon, pas tout le monde est d'accord avec cet argument-là, mais ça c'est leur argument au moins, et pourquoi on a besoin de ces énormes projets qui avaient une valeur de dizaines de milliards de dollars qui pourraient durer des décennies. Donc il y a beaucoup de pression là sur le ministre des deux côtés. Donc ça va être une décision où ça va être très délicat de créer ces nouvelles lois, et donc là c'est vraiment le début, c'est le processus qui commence et on est en train de consulter avec tout le monde vraiment pour comprendre les questions principales.
En seulement 2 semaines, ça donne cette impression de rupture entre le premier et le deuxième mandat d'Anthony Albanese. Après, on verra bien sur le moyen terme ce que ça donne, s'il y a vraiment une différence de politique écologique entre son premier mandat et son deuxième.
Voilà. C'est ça qui va être intéressant, parce que c'est sûr que maintenant, le gouvernement d'Anthony Albanese a plus de confiance, a plus de pouvoir, ils ont gagné d'une façon tellement convaincante. Puis là, on a vu bien sûr aussi la fin de la coalition entre les Nationals et les Liberals. Mm-hmm. Donc, il y a peut-être aussi plus de moyens au Sénat pour négocier avec les Liberals sur certaines questions comme ça. Parce que les Liberals, ils ont un peu fait signe qu'ils vont être un peu plus modérés. Mm-hmm. Donc, c'est possible qu'il y aura des accords. Donc, ça va être très, très intéressant à observer tout ça.
Et en un mot, Nicolas, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la débâcle des Verts aux élections ?
Des Verts aux élections ? Il n'y a peut-être pas une seule raison. Ça dépend à qui on parle. Les Verts eux-mêmes disent, écoutez, en fait, notre pourcentage du vote n'a pas vraiment baissé tellement. Ils disent qu'en fait, bon, il y a les autres partis qui ont travaillé ensemble contre nous, donc on n'a pas eu les préférences, les preferences des autres partis, et c'est pour ça peut-être que Adam Bandt n'a pas regagné son siège de Melbourne. Mais bon, il y a d'autres gens, les critiques des Verts, qui disent, ils sont allés trop loin. C'est ce que les critiques disent, qu'ils sont allés trop loin sur la question de Gaza, qu'il y a beaucoup d'Australiens, pour eux, c'était trop extrême leur position. Les Verts, ils disent non, pas du tout, on a pris une position humanitaire. Donc, c'est pas très clair, c'est pas sûr. Peut-être que c'était ça, peut-être que ça a joué un rôle avec le mainstream de l'Australie. Mais bon, aussi, c'est ce qui est sûr, c'est que les Australiens sont intéressés et sont inquiets par le changement climatique. C'est ça qui a aidé les Teals à être élus la dernière fois, pas cette élection, mais l'élection d'avant. On a vu Monique Ryan, on a vu Kay Cheney. Ils avaient tous des politiques de écologiques assez importantes. C'était pas aussi important cette élection-là, mais quand même, c'est une question. C'est une question clé. C'est pas tout à fait clair pourquoi les Verts ils ont perdu tellement de sièges, mais c'est vrai néanmoins que leur pourcentage du vote n'a à peine baissé en fait.
Ok. Merci beaucoup, Nicolas.
De rien. Merci beaucoup.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
13h46 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et enfin, d'émission, un rappel des titres de ce 22 mai. La police de Nouvelle-Galles du Sud a indiqué que le corps d'un homme de 63 ans avait été retrouvé hier après-midi près de Taree, sur la côte nord-ouest, dans une propriété de North Moto. Il s'agit du premier décès signalé dans les inondations records qui ont touché la région ces derniers jours. Le Parti national se prépare à répartir les portefeuilles clés entre leurs députés et sénateurs, nombre d'entre eux se préparant à assumer deux, voire trois rôles dans des portefeuilles comme le Trésor, les Affaires étrangères, l'Intérieur et l'Immigration. Le chef du Parti national, David Littleproud, a déclaré sur SBS que ce serait une erreur de sous-estimer les capacités de son parti. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous samedi et dimanche à partir de 13h sur les ondes SBS French. Bel après-midi. À bientôt.
Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.